Pauline Pucciano, Paradict. 27 décembre 2071. Elsie Costa, portrait d'une étoile filante. Des fêtes de Noël réussies dans la plupart de nos régions, notre reportage à Sydney. Les difficultés du budget 2072.
Je vous en supplie, Madame la Secrétaire Générale, vous ne pouvez pas me faire ça.
Higgins n'avait pas la réaction escomptée. Il s'accrochait à sa création avec une fureur presque inquiétante.
Vous avez travaillé pendant toutes ces années pour voir ce projet aboutir, et maintenant qu'il aboutit, vous refusez de vous en réjouir.
Comment pourrais-je me réjouir? Vous me fichez dehors.
Mais pas du tout, John. Je vous libère de vos obligations concernant Léviathan. Je ne vous fiche pas dehors. Vous pouvez désormais, à votre convenance, vous consacrer à un autre projet, demeurer consultant pour la WA, ou vous retirer pour votre bénéfice personnel. Il n'est que trop évident que vous avez tiré sur la corde, John, et que vous avez besoin de repos.
Vous avez encore besoin de moi, Madame la Secrétaire Générale.
Je ne crois pas, John. Votre remarquable travail qui vous vaut une place de choix dans l'histoire était de créer cet outil.
Ce n'est pas seulement un outil, l'a repris Higgins.
Cet outil est désormais opérationnel, autonome. Vous avez consacré toute votre vie à le rendre autonome.
Mais vous avez si peu d'expérience avec lui. Vous ne l'avez jamais utilisé sans mon aide.
Cela n'est pas si difficile, et je garde la tâche de Sylvanie Ziarenko.
Martha et moi sommes les seuls à comprendre l'étendue de ses capacités.
Peut-être. Mais nous n'avons pas créé une intelligence artificielle pour la révérer, John. Nous avons créé une intelligence artificielle pour qu'elle nous aide à gouverner.
Il y eut un silence embarrassé. Elsie regarda discrètement l'heure sur l'écran de son mobile. Higgins avait le visage tourné vers la porte, derrière laquelle se trouvait maintenant la machine. Quand il revoyait la scène où les agents de maintenance étaient venus la chercher pour la déplacer jusqu'ici, dans ce fameux « bureau palatin », il ne pouvait s'empêcher d'avoir les larmes aux yeux.
« Demandez-lui !» dit Higgins d'un ton mal assuré, comme sous l'effet d'une inspiration soudaine.
« Demandez à qui ?»«
À lui !
À Léviathan !
Demandez-lui si je dois rester auprès de vous. »«
Vous vous plierez à sa décision ?»«
Oui, je vous le promets. »«
Comme vous voudrez. »
Ils se levèrent tous les deux, et Higgins eut un bref hoquet, qu'Elsie feignit de ne pas entendre. Léviathan avait été installé dans un salon contigu. Il ne se trouvait plus dans l'atmosphère aseptisée des laboratoires scientifiques, mais dans les ors et les pourpres de l'administration, sur un meuble en chêne, devant un fauteuil Louis XV. Ses écrans, même quand ils n'étaient pas sollicités, affichaient en permanence des données. Higgins eut un pincement au cœur, en songeant que peut-être il ne pourrait plus jamais contempler cette merveilleuse machine au repos, lorsque ses multiples écrans donnaient un aperçu fugace de la langue des dieux dans laquelle elle rêvait.
Léviathan ? Appela Elsie.
Je suis disponible pour répondre à votre requête, dit la voix synthétique de Higgins. Ton bon fonctionnement nécessite-t-il dorénavant la présence de John Higgins?
Non.
Est-il souhaitable pour la WA que John Higgins demeure une interface entre toi et les gouvernants?
Non.
Pourquoi? S'écria Higgins.
Aucune intervention humaine n'est plus nécessaire pour surveiller mes fonctions.
« Pourquoi faut-il que je m'en aille ?» gémit Higgins.
« Le départ d'Higgins n'est pas nécessaire à mon bon fonctionnement. La présence d'Higgins est indifférente sur le plan technologique et au regard de mon efficience fonctionnelle. »«
Et au regard de l'efficience de l'institution politique ?» demanda Elsie, avec une pointe de sournoiserie.
« En cas de maintien de Higgins, le risque de querelle augmentant de manière préjudiciable l'irrationalité générale du gouvernement s'élève à 66%. »
Je vous promets, commença Higgins.
Le risque de querelle n'étant pas lié à une activité consciente et volontaire de la part de Higgins, sa promesse n'est pas pertinente pour la prise de décision.
Elsie soupira et se tourna vers Higgins d'un air désolé et compatissant.
Eh bien, John, je pense que nous avons notre réponse.
Higgins, vaincu, baissa la tête et ne protesta plus. Il ne pensait plus à Elsie à partir de cet instant et se contenta de lui répondre de manière automatique lorsqu'elle le raccompagna à la porte du bureau palatin. Il pensait à toutes ces années passées dans cette gestation titanesque, à toutes ces existences exclusivement consacrées à un but qui, aujourd'hui, se révélait autre. Le but avait toujours été la séparation. Toute naissance est une séparation. Mais il ne s'en rendait compte qu'aujourd'hui. Il avait désappris la vie sans Léviathan. Savoir son œuvre opérationnelle ne donnait guère de sens aux jours, aux semaines, aux mois, aux années qui se traînaient devant lui. Martha Henkel, qui l'attendait dehors, le soutint et adressa un regard lourd de reproche à Elsie, qui lui retourna un sourire gracieux. « Au revoir, cher John. Martha prenait bien soin de lui. Il est un peu secoué. » Frédéric Johnson, qui avait été nommé chef de cabinet, se trouvait dans l'antichambre et adressa à Elsie un regard respectueux. « Qu'y a-t-il, Frédéric ? Avez-vous une minute pour faire le point de la mi-journée ? Une minute, vraiment. Je dois déjeuner avec Terence. Je tâcherai d'être bref. » Elle lui sourit et le fit pénétrer dans le bureau. Elle choisit une ottomane pour s'installer, qui mettait en valeur le galbe de ses jambes souligné par d'impeccables talons hauts. Frédéric Johnson n'était pas encore accoutumé à la splendeur de ce local. Le bureau palatin avait été préparé depuis quelques années à l'intention de la future gouvernance française, mais il sentait toujours le neuf. Avec Elsie, le bureau prenait des airs de décor de cinéma. Elle seule paraissait être homogène à la beauté du lieu, et tous ses interlocuteurs ne pouvaient ressentir leur présence ici que comme une sorte d'intrusion grossière. « En bref, donc, dit Frédéric Johnson, nous avons 5 points de vigilance à aborder pour cette mi-journée. Le premier est sans doute le dernier bulletin de l'Organisation mondiale de surveillance de l'environnement, soupira-t-elle. Tout juste. L'OMSE le répète en boucle sur tous les radars. La planète se réchauffe, encore et encore. Nous avons réussi à changer de 3% l'angle de la courbe, mais elle reste ascendante. Les prospectives pour 2100 sont terribles. Je les soumettrai à Léviathan. Il est possible que ces bulletins soient erronés. Et s'ils ne le sont pas, hasarda Johnson. Quoi d'autre ? Les délicats tombent comme des mouches depuis plusieurs jours. Ce n'est pas nouveau ? Non, mais la situation semble s'embrouiller. Il y a des décès naturels en grand nombre, mais aussi des attaques génistes caractérisées. Combien de morts cumulées dans la communauté ? 512 sur le territoire national. À l'échelle mondiale, 23 987 en 4 jours. Des personnalités connues parmi les décès du jour ? Oui, la liste est ici. Ensuite ? Il y a eu une fusillade particulièrement meurtrière à Dallas, beaucoup de victimes parmi les théocrates, mais aussi parmi les suprémacistes. On approche des 400 victimes, dont le tiers au moins serait lié à l'une de ces deux organisations. Eh bien, bon débarras, dit Elsie d'un air indifférent. Johnson la reprit sans agressivité. Les 2 tiers restants étaient de simples fidèles dans un rassemblement protestant, beaucoup d'enfants. Il n'y a pas une bonne nouvelle dans le lot ? Les bonnes nouvelles ne sont jamais urgentes. Vous avez raison, Frédéric. Continuez. Les services météorologiques prévoient un phénomène d'une ampleur sans précédent, un cyclone de catégorie 8 qui passerait sur l'Europe dans la nuit de dimanche à lundi. Les gens auront au moins le temps de se préparer pendant le week-end. Enfin, le budget 2072 ne tient plus. Les coûts liés à la santé publique se sont envolés. Ceux des catastrophes climatiques restent stables. Les recettes attendues ont été revues à la baisse. C'est probablement le point le plus urgent. Bien. Réunion à 16h avec la Cour des comptes et le ministre des Finances. J'espère avoir le temps de consulter Léviathan sur un rééquilibrage du budget. Le porte-parole peut gérer la communication concernant les décès des délicats et les victimes de la fusillade. Voyez avec l'Observatoire national des phénomènes extrêmes quelles sont les mesures à prendre et les messages à diffuser. Ah, et demandez à Karl de s'assurer que la personne qui s'occupe de mon père fait bien tout ce qu'il faut. Et concernant la communication de l'OMSE ? Demandez à Karl Kurschel de préparer un discours alarmiste, voire catastrophiste, qu'il prenne appui à la fois sur le cyclone catégorie 8 et sur les annonces de l'OMSE. D'ordinaire, on essayait plutôt de minimiser l'effet des annonces. Non, je veux surfer sur cette vague. Je veux que les gens soient conscients de la situation. S'ils ont peur, tant mieux. Préparez une conférence de presse pour demain matin et demandez à l'ONPE de trouver un nom bien terrible pour le cyclone. C'est le premier de l'année, ce sera la lettre A. Suggérez Armageddon. Très bien. Autre chose ? Non, je suis déjà en retard. Appelez Terence et dites-lui que j'arrive. Il se trouvait dans le même restaurant que quelques mois auparavant. L'atmosphère ouatée du XXe siècle, avec le vieux cuir et les coupures de journaux encadrées au mur, était plutôt rafraîchissante. Elsie s'était depuis longtemps habituée à la viande et dégustait son bœuf Chateaubriand avec appétit. Elle avait fait ses recommandations, le restaurant était vide et le serveur assez discret pour permettre une conversation assez libre. Terence n'avait pas très faim. Il attendait l'occasion de se déjeuner depuis plusieurs jours et avait répété de multiples fois dans sa tête les différents scénarios possibles de cette discussion. Tout dans sa vie avait basculé insidieusement dans une cruelle parodie de ses désirs initiaux. Il avait rêvé du pouvoir et il le côtoyait aujourd'hui de très près, mais il n'en avait pas une once dans ses mains. Il avait désiré Elsie, son corps souple, son intelligence vive, et il était sur le point de l'épouser. Mais leur relation, à part quelques satisfactions sensuelles, ne lui apportait que de l'inquiétude et de l'amertume. Son engagement politique pour son parti avait toujours été sincère, et le parti était en passe de distancer tous les autres de 100 coudées. Mais ce parti ne représentait plus aucune des valeurs pour lesquelles il s'était engagé. « Je crois que la personne qui s'occupe de mon père est très bien, » disait Elsie d'un air dégagé. « Je ne me souviens pas de son nom. C'est terrible, ma mémoire devient de plus en plus sélective. Mais d'après Abel, elle correspond tout à fait aux besoins de papa. » Terence hocha la tête, sans répondre. Il savait qu'elle était en train de gagner du temps, et qu'elle se demandait, à cet instant même, si elle arriverait à tenir tout le déjeuner en propos badins d'ordre privé. Il ne doutait pas qu'elle y arriverait fort bien s'il la laissait faire, avec beaucoup de naturel en plus, et même peut-être quelques larmes perlant à ses yeux pour attester sa sincérité. « C'est vraiment bizarre, tu sais, de se sentir à ce point dépossédé de son temps, de sa fille familiale. Regarde, nous avons à peine le temps de déjeuner ensemble une fois par semaine. Heureusement, tu travailles avec moi. Mais imagine que ce ne soit pas le cas. Nous nous verrions très peu. Et pour mon père, c'est encore pire. Je culpabilise, tu sais. » Terence la regarda d'un air attendri, tout en songeant qu'elle le prenait vraiment pour un imbécile. « Papa et mes frères tenaient beaucoup à notre rituel du déjeuner dominical. Ça me fait un pincement au cœur de me dire que je ne pourrais peut-être plus jamais honorer ce rendez-vous. Je veux dire, pas avant que l'état de mon père ne se dégrade trop. » « C'est le revers de la médaille, » dit Terence, déterminée à n'offrir que la réplique minimum. « Oui, noblesse oblige. C'est toujours ce que me disait ma mère, la pauvre. J'aurais aimé qu'elle me voie. Elle serait fière de sa fille. » Pensait-elle vraiment qu'il la laisserait débiter toutes ses sornettes en lui donnant la réplique pour ce simulacre de déjeuner préconjugal? Bientôt, elle allait aborder la question du mariage. « Au fait, j'ai reçu une réponse pour le mariage. On me propose le 27. Est-ce que cela pourrait te convenir ?» Terence eut un petit sursaut. Il déposa ses couverts, avala sa bouchée et regarda Elsie dans les yeux. « Quoi ? La date ne te convient pas ?»« Ce n'est pas la date du mariage qui ne me convient pas, » articula Terence. « C'est tout ce faux-semblant, ton babil jour après jour lorsque nous nous retrouvons seuls. »« Mon babil ?» répéta Elsie, qui fit semblant d'être piquée. « Je me livre de manière... » « Ça suffit, Elsie. Nous ne pouvons pas nous marier sans avoir abordé certaines questions. Tu le sais, et je ne sais pas ce que tu attends. »« Je ne vois pas du tout de quoi... Arrête les faux fuyants. Nous avons un désaccord politique fondamental. » Elsie s'essuya la bouche, et ce geste lui fit soudain changer d'expression. Elle avait le visage calme, un peu pincé. « Tu as tort, » finit-elle par dire. « Tu t'imagines que nous avons un désaccord politique, mais ce n'est pas le cas. » Je partage toutes les valeurs pour lesquelles tu t'es battu toute ta vie. Je continue ton œuvre. On m'a dit que tu avais déjà transféré Léviathan au bureau palatin. Et alors ? C'est un outil, Terence. C'est ce que tu n'arrives pas à comprendre. Un outil reste un outil. Tout dépend de la manière dont on s'en sert. Les chemins de fer n'ont pas été construits pour la déportation des Juifs. Les caméras et les satellites n'ont pas été fabriqués pour la surveillance. Ce sont les politiques qui actionnent les outils et qui leur donnent leur sens. « Léviathan n'est pas un outil comme les autres. »« Tu parles comme Higgins. » »« Il a peut-être raison sur ce point. »« Mais de quoi as-tu peur ?»« La fin ne justifie pas tous les moyens. Il y a des moyens mauvais en soi, des moyens qui sont en eux-mêmes lourds de conséquences. »« Mais je n'ai pas d'idéologie meurtrière, Terence. Je n'ai aucune velléité impérialiste ou dictatoriale. C'est ce que tu ne comprends pas. Je suis une pragmatique. » « Depuis quand les pragmatiques font-ils des dégâts dans l'histoire ?» Terence réfléchit. « Depuis toujours. » Elsie éclata d'un rire mauvais. « Tu es de mauvaise foi. Ce sont les utopies qui nous ont toujours menés au génocide et au massacre. » « Mais c'est le pragmatisme qui nous a toujours menés à l'exploitation de l'homme par l'homme et à la destruction de la nature. » « Justement, je veux utiliser un outil pour éviter toutes les erreurs du pragmatisme passé. Avec Léviathan, il n'y aura plus de krach boursier, Plus de famine, plus de vues à court terme, plus de mesures en contradiction avec nos objectifs collectifs, plus de conflits d'intérêts. Il n'y aura plus de discussion, Elsie. Il n'y aura plus de politique. Il n'y aura plus de responsabilité. Si un outil t'aide à voir clair dans l'embrouillamini d'une situation complexe, si cet outil t'explique clairement les conséquences de chaque option qui s'offre à toi, tu considères qu'il n'y a plus de choix politique. Je considère au contraire que le choix politique prend alors tout son sens parce qu'il n'est pas obscurci par l'ignorance. Tu n'auras pas le temps de peser tous tes choix. Tu finiras par demander à Léviathan de choisir pour toi. Et si les 10 choix sont les bons, sont les meilleurs, est-il vraiment si important que ce soit moi qui les ai faits, ou lui ? Terence marqua une pause un peu théâtrale. Ce n'est pas important, c'est capital. Elsie fit une grimace qui l'invitait à s'expliquer. Notre cerveau n'est pas disjoint de notre corps, Elsie. Nous pensons avec nos sensations, avec nos émotions, avec notre sentiment d'appartenir au monde organique. Quand nous prenons une décision, c'est une décision humaine, parce qu'elle n'est pas entièrement objective et rationnelle. Elle est aussi subjective. Elle dépend de notre histoire, de nos relations, de nos valeurs. Tu appelles ça de l'ignorance ? J'appelle ça de l'humanité. Est-ce que cela a empêché Bachar el-Assad de massacrer son propre peuple ? Est-ce que cela a empêché la traite négrière, le génocide des Indiens ? C'est ça ton humanité ? N'utilise pas les arguments de bas étage des antispécistes. Et pourquoi pas ? Pourquoi faudrait-il faire l'impasse sur ces conséquences-là ? Laisser les humains décider, c'est laisser potentiellement agir leurs instincts agressifs, leur soif de domination, leur cupidité. En quoi serait-ce mieux que de laisser choisir Léviathan ? Ne me dis pas que tu veux essayer de les rallier. Je rallierai tout le monde, Terence, sous la bannière de la raison. Laisser les humains décider, c'est aussi laisser potentiellement agir leurs instincts de vie, leur créativité, leur désir, leur génie. Il y a eu des Mandela, des Jean Moulin, des Gandhi, il y en aura toujours. Il y a les philosophes, les artistes, les héros, les gens capables de se sacrifier lorsque ce n'est pas rationnel, les gens capables d'espérer lorsqu'il n'y a pas d'espoir possible, les gens capables d'inventer. Léviathan est-il capable d'inventer ? Léviathan ne dirige rien, il m'aide à gouverner, c'est un outil, comme je me tue à te le répéter. Un outil qui t'a désigné comme candidate. Un outil qui désignera le prochain candidat. Un outil qui met fin à toute l'organisation politique démocratique traditionnelle. Elsie secoua la tête d'un air un peu las. Cette discussion est stérile, constata-t-elle. Tu ne veux pas que nous nous changions de sujet ? Je suis fatiguée et ma journée est encore longue. Terence la regarda. Elle avait repris son visage inoffensif, son visage de poupée parlante. S'il forçait le passage maintenant, s'il la bousculait à nouveau, elle changerait de ton. Il commençait à la connaître, et il faudrait affronter les conséquences d'une dispute caractérisée, peut-être aussi d'une disgrâce officielle, comme Lian Hung. Terence savait que le moment arriverait tôt ou tard où il lui faudrait choisir son camp, dans ce théâtre politique où leurs idées s'affrontaient. Mais il n'était pas encore prêt. « Bien sûr, excuse-moi. Qu'est-ce que tu as cet après-midi ?» Ah, la Cour des comptes et le ministre des Finances. Tu as besoin de moi ? Elsie observa un silence blessant, qui montrait qu'elle était prise au dépourvu, qu'elle n'avait eu aucune intention de faire appel à lui, mais que sa question l'embarrassait dans le contexte de leur dispute. « Oui, si tu veux bien, dit-elle. Il va falloir rééquilibrer le budget 72 d'urgence. Tous les points de vue seront les bienvenus. À quelle heure ? 16 heures, au bureau Palatin. » La fin du repas fut très courtoise. La conversation revint sur le mariage, dont ils fixèrent les préparatifs avec d'autant plus de liberté que ni l'un ni l'autre ne croyaient vraiment que leur couple tiendrait jusqu'au 27. Tandis que leurs paroles roulaient sur la liste des invités et les concessions à faire aux médias, ils s'observaient mutuellement et nourrissaient des pensées silencieuses. Elsie se demandait à quelles conditions elle pourrait le tolérer auprès de lui et les énumérait mentalement. Il faudrait qu'il cesse d'exprimer toute opposition à Léviathan en public, et que ses protestations en privé, comme aujourd'hui, demeurent exceptionnelles. Il faudrait qu'il cesse ses relations avec Lian Hung, et qu'il s'affiche avec Johnson et Anglion. L'idéal serait qu'il ait un souci de santé, ou une obligation lointaine, qu'il écarte pendant quelques mois de la scène politique, juste après leur mariage. Terence, quant à lui, comprenait que ce qu'il avait espéré, user de son influence sur elle pour la faire changer d'avis, n'arriverait pas. Comme il avait été naïf de voir, il y a quelques mois, dans les yeux confiants et admiratifs d'Elsé, la promesse de pouvoir la diriger à sa guise. Elle avait été amoureuse, certes, mais comment avait-il pu la sous-estimer à ce point? La prendre pour une jeune femme qui vouerait un culte à son mentor. Il était totalement passé à côté de sa vraie personnalité, de son indépendance, de son obstination, de son sens aigu des opportunités. Elsé s'était servie de lui au moins autant qu'il s'était servi d'elle, et il se sentait irréparablement idiot, aujourd'hui. Sous-estimer son ennemi est la plus grave, la plus impardonnable erreur de tactique. Il le savait, en théorie, mais venait de prouver qu'il se croyait meilleur stratège qu'il ne l'était réellement. « Je crois, disait Elsé, que nous serons obligés d'avoir recours à un journaliste officiel pour couvrir la cérémonie. Est-ce que tu as une idée ?»«
Non, pas vraiment. Il y a cette Kim Coolgan qui semble très en vogue en ce moment. »«
Oui, j'ai pensé à elle. On m'a dit que tu lui avais longuement parlé pendant mon meeting, à deux reprises. »
Terence leva un sourcil. Elsé était-elle en train de lui dire à demi-mot qu'elle savait qu'il avait vendu la mèche à la presse au sujet de Léviathan? Était-elle en train de le menacer discrètement?
« Oui, en effet, je la connais un peu. Tu sais, ma carrière politique est longue et j'ai toujours aimé les jolies femmes. »
Elsé éclata d'un rire faussement choqué.
« Eh bien, c'est entendu. Nous lui demanderons de couvrir l'événement. » Cela la disposera peut-être à arrêter de répandre les théories complotistes qui circulent sur le net.
Terence savait à quoi elle faisait référence, à ce groupuscule mystérieux, Carpe Fatum, qui avait fait un coup d'éclat dans le paradicte et qui martelait la phrase « Vous serez bientôt dirigé par une intelligence artificielle ». Elsé pensait-elle qu'il avait quelque chose à voir avec ce groupuscule ?
« Et ton père ? » demanda Terence avec un air très concerné. « Penses-tu qu'il sera en état d'assister à la cérémonie officielle ?»«
Je pensais lui faire donner un cachet pour qu'il se tienne tranquille. Je pense que sa présence est indispensable. »
Au même instant, Francis Costa apostrophait son aide-soignante pour la troisième fois. Elle était aux prises avec un pansement intelligent qui était censé s'adapter de lui-même à la forme de la plaie. Mais cette plaie à l'aisselle était mal placée et le pansement était difficile.
« Il est l'heure d'aller chercher Abel à l'école, non ?»«
Non, pas encore.
Tu es sûre ?»«
Oui, tout à fait sûre. »«
Il avait un exposé aujourd'hui, tu sais ?»« Abel est encore plus douée qu'Elsé.
Abel, tu sais ce que c'est ?»«
C'est un zèbre, » dit l'aide-soignante.
« Exactement. Elsé, c'est une bûcheuse, mais Abel, c'est un zèbre. »
L'aide-soignante, avec beaucoup de patience, lui donna la réplique jusqu'à ce que cette conversation lui sorte de la tête. Elle nota, en son fort intérieur, que le père de la secrétaire générale ne parlait presque jamais de son troisième enfant.